Imaginez un tout petit détail, invisible à l'œil nu, mais qui peut en fait décider si un traitement contre le cancer doit devenir beaucoup plus agressif. C'est le rôle de ce qu'on appelle l'effraction capsulaire, on dit aussi extension extraganglionnaire ou ENE. Et c'est un facteur qui peut, dans certains cancers, carrément réduire de moitié les chances de survie. C'est assez frappant. Alors, concrètement, cette ENE, qu'est-ce que c'est ? Ben, faut voir un ganglion lymphatique un peu comme une petite forteresse, une station relais. Normalement, si le cancer l'atteint, il est censé rester dedans, confiné. L'ENE, c'est quand les cellules cancéreuses forcent la sortie. Elles traversent l'enveloppe du ganglion, sa capsule, et commencent à envahir les tissus juste autour. C'est un peu comme si le cancer s'échappait, quoi. Pour explorer ce sujet en détail, on s'appuie aujourd'hui sur un article très complet du site Pathologie Info, qui est une référence pour les spécialistes. Notre objectif, c'est de bien comprendre pourquoi cette évasion au niveau microscopique est si critique, comment les pathologistes la repèrent, la mesurent, et puis surtout, quel est son impact sur le pronostic et les choix de traitement, en particulier dans les cancers ORL, tête et cou. Alors, allons-y, hein, décortiquons ça ensemble. Cette idée que le cancer sort du ganglio, qu'il brise cette barrière, c'est donc vraiment le point clé. Pourquoi est-ce si important, si déterminant ?
C'est déterminant parce que l'évasion, c'est vraiment un marqueur, un signe très clair de l'agressivité de la tumeur elle-même. Le simple fait qu'elle réussisse à franchir cette capsule qui est censée la contenir, ça montre une capacité d'invasion plus forte. Et ça augmente de façon significativement le risque que le cancer revienne localement, bien sûr, mais surtout ça favorise sa propagation à distance. C'est la porte ouverte aux métastases. L'impact sur la survie peut être dramatique, oui, avec cette réduction de 50% qu'on évoquait. C'est considérable. D'ailleurs, c'est un facteur tellement important que pour certains cancers de la tête et du cou, ceux qui ne sont pas liés au virus HPV ou EBV, eh bien, l'ENE fait partie intégrante de la classification TNM. C'est le système standard pour évaluer l'étendue d'un cancer. Et sa présence, ça pousse quasi systématiquement à proposer des traitements plus lourds après la chirurgie. Je pense à la radiothérapie, ou même la combinaison radiochimiothérapie. Des traitements adjuvants, comme on dit.
Une réduction de 50%, c'est vrai que c'est vertigineux comme chiffre. Ça montre bien à quel point il faut absolument l'identifier correctement. Mais juste avant d'en arriver à cette effraction, à cette sortie, comment les pathologistes évaluent ce qui se passe à l'intérieur du ganglion ? Et j'imagine qu'il y a différents stades d'atteinte.
Ah oui, tout à fait. Il y a une gradation, bien sûr. Avant même de chercher une ENE, on regarde l'étendue de l'invasion dans le ganglion lui-même. Ça peut aller de quelques cellules tumorales isolées, de tout petits groupes. On parle de CTI. En général, ça n'a pas vraiment d'impact sur le pronostic. C'est classé PN0I+. Ensuite, on a ce qu'on appelle les micrométastases. Là, les dépôts sont un peu plus gros, entre 0,2 et 2 mm. C'est classé PN1MII. Et puis, on a les macrométastases, quand les dépôts dépassent 2 mm. Là, clairement, le pronostic est moins bon. Et il s'aggrave avec la taille et le nombre de ganglions atteints. Mais l'ENE, l'effraction capsulaire, ça représente vraiment un saut qualitatif, un cap franchi par la maladie.
D'accord, je vois. Il y a donc ces étapes à l'intérieur, mais l'ENS marque vraiment un seuil critique. Et alors, comment on fait, concrètement, pour mesurer cette sortie sur une lame de microscope ? J'imagine que ça demande une précision extrême.
Oui, c'est un travail très minutieux, c'est vrai. Le pathologiste doit repérer l'endroit où la tumeur s'étend le plus loin au-delà de la ligne de la capsule et il mesure cette distance perpendiculairement à la capsule dans le tissu qui est envahi, autour souvent du tissu graisseux. On fait la différence entre l'ENE microscopique, qu'on ne voit qu'au microscope, et l'ENE macroscopique, qui peut parfois être suspecté, voire vu à l'œil nu par le chirurgien ou le pathologiste. Et pour quantifier ça, il y a des systèmes. Par exemple, celui de Greenberg est assez utilisé. Il distingue une ENE minimale si l'extension est inférieure à 2 mm et une ENE majeure si c'est égal ou supérieur à 2 mm. Et cette ENE majeure, elle est clairement associée à un pronostic plus défavorable. Bon, l'évaluation n'est pas toujours simple, hein. Parfois, la capsule est un peu effacée par l'inflammation ou elle est carrément détruite. Ou alors, plusieurs ganglions sont collés ensemble, ce qu'on appelle des ganglions coalescents. Ça rend la mesure de l'extension depuis un ganglion spécifique un peu plus compliquée.
C'est fou de penser qu'une mesure de quelques millimètres, 2 millimètres, puisse avoir un tel poids sur le pronostic. Cette ENE majeure, c'est donc vraiment un signal d'alarme très sérieux pour toute l'équipe soignante.
Exactement. C'est un facteur pronostic dit indépendant et très puissant. Son impact est parfois jugé aussi important, voire même plus important, que celui des marges chirurgicales. Vous savez, le fait de savoir si on a bien tout enlevé le cancer lors de l'opération. Et ce n'est pas pertinent que pour les cancers ORL. L'ENE est un facteur pronostique reconnu dans beaucoup d'autres cancers. Sein, colon, rectum, mélanome. C'est pour ça que sa recherche et sa description précise dans le compte-rendu d'analyse des ganglions sont devenus obligatoires. Il faut dire si elle est présente ou absente, et si oui, quelle est son étendue.
D'accord. Donc, si on devait résumer, l'essentiel à retenir, l'ENE, c'est le cancer qui sort du ganglion, qui franchit cette barrière. C'est un vrai signe d'agressivité biologique. Ça assombrit le pronostic et très souvent, ça justifie des traitements plus intenses.
Même s'il y a différents niveaux d'atteinte à l'intérieur du ganglion, l'ENE, elle marque vraiment un tournant.
Tout à fait. Et ce qui est remarquable finalement, c'est de voir à quel point l'examen très attentif de ces frontières anatomiques, parfois sur quelques millimètres seulement, eh bien ça fournit une information absolument cruciale qui va guider la stratégie thérapeutique et impacter directement le devenir du patient. Ça souligne vraiment le travail de précision et l'importance fondamentale du diagnostic pathologique. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question un peu ouverte. Vu l'impact majeur de l'ENE, et notamment cette distinction clé entre minimal et majeur, comment est-ce que la recherche pourrait nous aider à aller plus loin ? Peut-être mieux comprendre les mécanismes biologiques qui se cachent derrière cette invasion, ou alors développer des marqueurs ou des mesures encore plus fines pour prédire encore mieux le risque associé à l'ENE et pourquoi pas personnaliser davantage les traitements à l'avenir.